STL équipe.
Croisé courte gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour Carrément Tennis, une heure de l'actualité de la planète tennis, de la petite balle jaune, direction aujourd'hui bien sûr les États-Unis où se dispute actuellement le premier des deux Master 1000 consécutifs, Indian Wells, Miami. Du côté d'Indian Wells, on atteint le Money Time, le Showtime même, avec les quarts de finale, et avec plaisir nous avons appris cette nuit que Richard Gasquet sera parmi les 8 derniers qualifiés de ce tournoi grâce à sa victoire sur Andy Roddick, l'américain. Ce n'est pas sans nous rappeler une petite Wimbledon 2007 et cette superbe victoire que Gasquet avait remportée également contre Roddick. Le voilà en quart de finale contre Novak Djokovic, le Serbe, sans doute le meilleur joueur du monde actuellement. 17 victoires consécutives. Il a encore une fois laminé son adversaire 6-0, 6-1 contre son compatriote Viktor Troicki. Qui peut battre Novak Djokovic dans ce tournoi? On vous pose la question. Les meilleurs sont là tout de même. Roger Federer se promène, même s'il n'a pas eu à jouer Raonic. Ça s'est bien passé face à Harrison. Et puis, Rafael Nadal a un petit peu souffert, contrairement au premier tour, face au qualifié indien de Varman. Mais victoire quand même solide en 2-7 du numéro 1 mondial, qui retrouvera le géant Ivo Karlovic au prochain tour, avant peut-être de défier Juan Martín Del Potro, l'Argentin, plus que jamais de retour. Il a battu Philippe Kohlschreiber et lui sur une série de 9 victoires consécutives. Il est d'ores et déjà 90e mondial et va grimper très très vite pour retrouver les sommets. Dans le tableau féminin, là aussi, très belle surprise dans les rangs français avec la qualification pour les demi-finales, le dernier carré de Marion Bartoli après sa victoire sur Ana Ivanovic. La Serbe de retour quand même au premier plan après une victoire notamment sur Jelena Jankovic, la tenante du titre. Ça passe aussi pour Caroline Wozniacki, la Danoise. Et puis Bartoli, ce sera face à Wickmayer. La demi-finale, il y a donc un bon coup à jouer. On a perdu Clijsters dans ce tournoi, on expliquera pourquoi. Et puis chez les filles, il y en a des choses également qui se passent. On en parle ce matin dans Carrément Tennis.
Like RTL équipe, Carrément Tennis.
Nous sommes ensemble. Il y a déjà les experts. Miami, c'est la semaine prochaine, monsieur Pareil. Ah, ça va être bon. Les experts, c'est vous. Carole Bouchard, bonjour. Comment ça va?
Très bien.
On a perdu une experte d'ailleurs. Elle est dans l'avion pour Miami. Myrtille Rambion, que l'on salue, qui couvrira pour nous le tournoi de Miami la semaine prochaine. Salut Émilie Loi.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va pas mal.
Un petit peu mal au dos apparemment.
Oh, purée,
oui. Oh là là.
La peau.
Là, elle est en train de se dire, qu'est-ce que ça va être les prochaines semaines?
L'angoisse.
Bon courage, hein, avec la chaleur qui arrive l'été, bon courage. Bon, merci d'être avec nous Émilie. Julien Varlet également est avec nous. Tout le monde dort peu en ce moment, hein, parce qu'avec le décalage horaire, forcément, on regarde les matchs la nuit.
Effectivement.
Oui. Ça va?
Ouais, très bien.
Ça
des
pique
petits
un peu.
Aussi, hein. Ah, ça pique un
ça
peu.
Ça pique un peu. Ouais. Toi, genre, vous avez regardé tous les matchs?
Ah non, pas tous.
Ah non,
pas
tous.
Je
peux pas. À un moment.
Elle est énorme.
À un moment,
oh,
j'avoue, pas tous.
Pas tous.
Sachant que j'ai pas la fameuse TV, je suis sur Internet, donc ça va pas vite.
D'ailleurs, on comptait beaucoup sur Benoît Mélin ce matin, puisque c'est diffusé, bien sûr, sur Orange, ce tournoi d'Indian Wells. On attendait Oran Juice, qui lui est obligé de tout commenter, de tout voir.
On l'a perdu.
Bah, il est pas là. On se pose des questions, on est très inquiets.
Son chauffeur n'est pas passé le prendre, en l'occurrence moi. Donc
on va lui envoyer des textos pour qu'il nous rejoigne dans cette émission, parce que lui, pour le coup, a commenté et vu tous les matchs. C'est donc le mieux placé d'entre nous. On a également Georges Homsi, qui est sur place aux États-Unis et qui, grâce à lui, vous allez écouter les réactions et les commentaires des rencontres, notamment celle de Richard Gasquet. Donc merci à tous d'être avec nous. On va passer un petit coup de fil à Benoît pour savoir où il en est. Et on va attaquer donc cette émission par la qualification pour les quarts de finale de Richard Gasquet, qui est tout simplement le joueur français le plus régulier en ce moment, je lui ai parlé.
Ouais, moi je trouve ça super bien, parce que on en avait souvent parlé depuis quelques mois. Il gagnait sur des joueurs qui étaient un peu en dessous de lui, mais dès qu'il jouait un peu au-dessus, bien il pliait tout de suite rapidement, et là il enchaîne de belles victoires. Donc c'est aussi une surface qu'il apprécie, dure extérieure. Après, bon, Richard joue quand
pas
même
trop rapide
dans l'absolu, bien sur toutes les surfaces. Mais voilà, je trouve que d'enchaîner en plus, c'est plutôt pas mal. Alors, il est pas tombé forcément sur le meilleur Roddick qu'on puisse connaître. Mais en tout cas, voilà, il a le don d'être encore présent et c'est vraiment bien. Puis de se frotter au meilleur. Et actuellement, c'est quand même Djokovic le meilleur. Ça peut être un match intéressant.
Alors, c'est vrai qu'il coinçait, vous l'avez dit, par exemple, contre Thomas Berdych à l'Open d'Australie. On ne l'avait pas vu battre un top 10 depuis longtemps. Richard Gasquet, Émilie, vient d'en enchaîner deux. Alors, attention, on va tout de suite replacer les choses dans leur contexte. Jürgen Melzer, c'était le même fantôme qu'on avait vu à Vienne en Coupe Davis.
Arrêtez, il gagne, mais là, il joue des fantômes.
Mais il gagne facilement. Et Roddick, par contre, même si Roddick est lui aussi un petit peu moins bien depuis plusieurs mois, c'est quand même Roddick aux États-Unis, il faut quand même le battre.
Ouais, il est bas, avant il est battait pas. J'ai bien aimé son interview, c'était hier ou avant-hier, quand il dit je suis encore loin des meilleurs. Il se protège quand même encore hein, du.
Toujours ça.
Pour pas être.
Il est 20, cela dit. Hein.
Sur le devant de la scène. Donc moi je trouve ça bien. J'ai pas vu son match cette nuit, j'ai juste vu quelques balles par moment et notamment à la fin. Je trouve que déjà dans son regard. On sent quand même un joueur qui est déterminé. Contrairement, il y a quelques semaines, on sentait un joueur un peu imbattu, pas complètement dedans. Là, on sent que c'est un autre Richard Gasquet. Ça se voit dans ses résultats. Donc, effectivement, au prochain tour, ça va être une confrontation assez intéressante face à Novak Djokovic.
Alors, ce qui est très intéressant dans son match contre Roddick, et c'était déjà le cas dans le match contre Mazer, on va dire depuis le début du tournoi, il y a cette fameuse volonté de la part de son nouveau binôme de coach, Ricardo Piatti et Sébastien Grosjean, de le voir tenir sa ligne et ne pas refuser d'avancer, donc ne pas reculer, de ne pas subir. Et contre Roddick hier, on peut clairement le dire, Carole, il a dominé ce match, pas de la tête et des épaules, mais il l'a dominé. C'est lui qui était scotché à sa ligne, on l'a vu prendre beaucoup d'initiatives et il n'a pas reculé. Ça, c'est vraiment le point positif sur ce match.
Et c'est ce qui m'a le plus plu, moi, dans ce match-là, c'est la manière avec laquelle il a gagné, enfin agressif, enfin offensif. Comme l'a dit Émilie, dans le regard, c'était plus le même joueur. Il a montré à Roddick qu'il n'allait pas lâcher et il l'a eu au mental, ce qui est quand même pas rien. Il a un peu coincé physiquement après un 7,5, mais il s'est battu. Il a pas reculé pour se préserver. Il a encore avancé. Il fait un super tie-break. Le revers, il est parti, mais comme à la belle époque.
Bah, la balle de match est très symbolique.
Alors que c'est une super
un retour
deuxième balle,
de revers sur une deuxième balle kickée qui est limite dans les bâches. Il lui met un retour de revers limite gagnant à l'angle opposé. Voilà, il l'a lâché.
Il a joué comme il doit le faire et comme on lui dit qu'il doit le faire depuis des années. Donc c'est moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est la manière. Après, moi, je m'inquiète maintenant pour Andy Roddick parce que honnêtement, il m'a semblé complètement
très nerveux déjà.
Perdu, il a été odieux avec l'arbitre. Non mais il a pourri l'arbitre parce que son service était annoncé lettre. Bah oui, enfin c'est pas la faute de l'arbitre, il y a une sonde, elle est lettre, il a été atroce. Donc j'ai l'impression mais de lui-même il doit se dire mais il y a plus rien qui part, le service Gasquet a super bien retourné et ça l'a frustré, le revers, on sait que c'est pas son fort, c'est encore pire que d'habitude, mais en coup droit, il y a plus rien.
Julien, vous le connaissez bien, Richard Gasquet. Justement, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce tournoi, au-delà du résultat? C'est l'attitude, c'est le sourire, c'est le fait de le voir un peu blaguer. On sait que depuis le début de la semaine, par exemple, il chambre avec son coup droit qui est bien sûr.
Il y a du boulot encore.
Ouais, non, bien sûr qu'il y a du boulot, mais c'est vrai qu'on l'a vu blaguer sur son coup droit en expliquant
il
que c'est la première fois qu'il a un coach, en l'occurrence Grosjean, qui a un meilleur coup droit que lui, parce qu'avant, Vinogradski ou De Blicquer, c'était des caves en coup droit. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vrai que de le voir un peu détendu, de le voir un peu souriant, de le voir un peu chambreur, on se dit peut-être qu'il est un peu mieux dans ses baskets en ce moment. Quoi.
Ouais, par rapport aux déclarations, et puis même ça se voit aussi sur le terrain. Et puis vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terrain pur aussi. Et comme le dit Carole, sa façon de jouer, je n'ai pas pu voir le match malheureusement, mais si c'est rapproché de sa ligne, c'est vraiment là un point de travail technique qui est très important, parce qu'il a vraiment tendance à jouer très très loin, sur les talons, avoir le corps qui part vers l'arrière, en jouant des balles très, très courtes. Donc là, s'il a tendance à se rapprocher un peu de sa ligne, et c'est comme ça déjà qu'il sait mieux jouer, c'est comme ça qu'il va gêner encore plus les adversaires. Donc voilà, maintenant s'il peut exploiter ce style de jeu contre Djokovic, ça sera très bien. S'il le fait pas, c'est pas forcément grave, mais s'il a déjà joué cette façon de frapper la balle en avançant, il pourra le faire sur les semaines qui viennent.
Est-ce qu'il peut s'y tenir, Émilie, justement à cette nouvelle philosophie qu'on essaye de lui inculquer? Attention, en philosophie dont on a déjà parlé par le passé, hein, c'est pas tout nouveau, tout beau, j'arrive, je me mets sur la ligne, ça fait plusieurs fois, plusieurs mois, plusieurs années qu'on lui dit.
Mais déjà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, donc le fait d'aller sur sa ligne, il sent bien la balle, il sent bien les choses, donc s'il le décide, il va le travailler bien évidemment en entraînement, il va y arriver. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Ricardo Piatti, je connais pas, mais déjà il a quand même des résultats avec
Lubicic
pendant des années, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et je trouve très bien d'avoir pris Sébastien Grosjean pour déjà jouer près de sa ligne. C'était un petit peu, c'est pas le même jeu que Sébastien Grosjean, mais ça se rapproche quand même. Moi, je trouve pas ça si loin que ça.
Alors Grosjean c'est intéressant ce que vous dites. Grosjean dit c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi j'avais un excellent coup droit. Et plutôt un revers moyen.
Oui, non, mais quand on parle du coup droit et du revers,
il dit aussi, voilà, en revers, j'ai arrêté un moment dans ma carrière de subir sur mon revers, et de temps en temps, je le lâchais, quitte à ce qui est, voilà, et il dit, je veux que Richard en fasse de même avec son coup droit et qu'il en prenne conscience.
Voilà, je parle pas du coup droit du revers, je parle juste du positionnement sur le terrain, donc ça, je trouve ça intéressant. Sébastien était troisième mondial, il me semble, au niveau de la notoriété, etc. C'était pas le joueur le plus connu sous le feu des projecteurs. À mon avis, c'est ce que veut Richard. bien jouer, rentrer peut-être dans les 10 au fur et à mesure avec un bon travail mental.
Revenir,
et surtout,
il a déjà été.
Ouais, revenir dans les 10, mais surtout revenir dans les 10, mais discrètement. Faire son truc, mais voilà, qu'on n'en parle pas trop, etc. Et c'est un peu ce que Sébastien a fait. Donc, je trouve que c'est assez similaire. Les deux carrières peuvent être assez
intéressantes. À la différence de Grosjean, c'est, vous avez raison de souligner ça, mais à la différence de Grosjean, est-ce que si Richard Gasquet revient dans les 10, est-ce que ça peut être, entre guillemets, dans un relatif anonymat? J'ai envie de vous dire non, d'abord,
impossible.
Parce qu'il y a toute l'histoire Gasquet depuis
impossible.
Toujours.
Non, mais...
Et en plus, en ce moment, eh ben, quand on voit mon fils blessé, ah, Simon oui. un peu à côté, de son gars qui nous annonce, on verra tout à l'heure, des choses un peu bizarres, bon, ben, forcément, tout non, va se focaliser sur Richard.
Si ensuite, il y a un moment ou un autre, il pourra pas non plus se cacher, même si plus, si, tant mieux pour lui, mieux il joue, mieux il va, plus il va gagner de matchs, il pourra pas se cacher. Mais il y a une chose aussi importante, c'est de se rapprocher de sa ligne, c'est très bien. Mais après, faut tenir physiquement. Parce
c'est
que jouer près de sa ligne, ça veut dire quoi? C'est être plus bas sur les jambes, être plus rapide sur les jambes, avoir des bonnes cannes. Alors Richard, de bonnes cannes, mais est-ce qu'il peut le répéter?
On l'a senti hier. Hein.
C'est la chose où il l'a senti, donc il peut le faire.
Ouais.
Ça, comme le dit Émilie, il a une bonne main et tout ça, il sent vraiment le jeu, donc ça c'est indéniable. Mais physiquement, il va falloir tenir au niveau des cannes, de l'endurance, donc ça engendre plus d'heures sur le terrain.
D'un autre côté,
et
ça
voilà,
prévoit peut-être un peu moins de travail cardiaque de défense, et c'est pas forcément
oui.
son point fort.
Mais
il
faut avoir de l'endurance musculaire. Je parle pas qu'au niveau cardiaque, c'est avoir l'endurance musculaire pour pas non plus saturer au bout de quelques jeux parce qu'il est asphyxié. Parce que s'il veut pas reculer, il faudra être solide.
Ouais, il a dit hier à la fin du deuxième, heureusement qu'il n'y a pas eu de troisième parce que j'aurais été très très mal.
Ouais, c'est le travail qui commence en fait
ouais,
à faire.
C'est ça.
C'est pas grave, même s'il tient que 2-7.
Moi,
je trouve
voie.
Que c'est intéressant. Même s'il tient que 2-7 pendant
toute
un mois ou deux,
il ne peut briller que comme ça.
Ah, voilà. Mais s'il joue pas sur sa ligne face à Djokovic, il est mort.
Non, mais Djokovic,
clair.
À la limite, on va laisser le match
oui,
à part. Bien sûr, s'il y a un exploit, tant
oui,
mieux.
Mais c'est la seule solution maintenant s'il veut aller encore plus vers l'avant. Et s'il joue encore 3 mètres dans la bâche, ça sert à rien.
Oui,
et ça, il l'a compris.
Et puis
et
contre Djokovic,
hein.
contre Federer,
souvenez-vous de Shanghai.
Contre Söderling, ce sera pareil.
La dernière fois qu'ils sont joués à Shanghai, il a pris 1-1 parce qu'il était 4 mètres derrière la ligne.
En ce moment, tout le monde prend 1-1 contre Djokovic. On en reparlera tout à l'heure. Bon, Richard Gasquet, positif quand
ah
même.
Bah
ça.
Oui. Bah oui.
Il se passe des choses, c'est plutôt intéressant.
L'épaule
a l'air de tenir. Il a servi à 80% de première balle et plutôt bien sur ce match.
Juste un truc. Par rapport au passage de Blicker Grosjean, je pense qu'en fait, Seb est un peu dans la même philosophie qu'Eric, sauf qu'il est un peu plus de la génération de Richard. Donc voilà, il va y avoir un discours qui sera un peu plus.
Si
plus
en plus, il lui apprend la belote. Alors là, c'est génial.
On l'a senti sur le bord du cours. Hein. Hier, on l'a vu un Grosjean très, très impliqué dans le match qui lui parlait, qui le remotivait. Donc il est. Et Richard l'a regardé plusieurs fois, ce qui n'est pas tout le temps son truc. Et on a senti qu'il avait besoin. D'avoir ce monde-là près de lui. Quoi.
Alors, on verra les deux, d'ailleurs, Piatti et Grosjean, sur cette tournée américaine. Ensuite, ce sera plus Piatti.
J'attends de voir comment ça va se gérer le
pendant
le
la tournée sur terre battue européenne, et notamment
facile,
le début
hein.
Monte-Carlo, Rome et tout ça.
Parce que Piatti parle pas vraiment français, Richard l'anglais, voilà. Est-ce que passer de Grosjean à Piatti, comment on... Ah, mais un binôme, c'est pas facile, un binôme
ouais,
d'entraîneur.
Ça va, mais ça peut lui faire du bien. Et puis la terre battue, Richard, il peut très très bien jouer,
Piatti,
donc il peut être aussi très présent sur la tournée sur terre battue.
Puis psychologiquement, si ça se passe bien avec Sébastien, imaginons, même s'il perd face à Djokovic
oui,
au prochain tour, ce sera un bon tournoi. S'il fait un petit quart à Miami, ce sera également un bon tournoi. C'est pas facile de changer. C'est un peu changement de coach.
Moi, c'est ça qui me.
Mais Piatti là aussi. Donc, je pense qu'il discute vraiment avec une philosophie sur le moyen terme. Donc,
mais ça va être intéressant de voir comment Richard il va, entre guillemets, quitter Grosjean pour retrouver quelqu'un d'autre.
C'est vrai. Et puis sur terre battue, c'est vrai que t'as tendance forcément à reculer un peu, mais lui peut peut-être imposer justement à des joueurs qui
c'est
jouent.
C'est sa surface,
voilà.
Oui, de toute façon, la terre. Donc.
Il joue bien sur terre, hein, Richard.
Ah bah,
c'est l'un d'ailleurs des joueurs, des rares joueurs sur le circuit, à pouvoir vraiment très bien jouer sur toutes les surfaces.
Ah bah oui,
si on, parce qu'il joue il peut très bien jouer sur gazon avec son bras.
D'accord.
Sur terre, il a toujours eu plutôt des bonnes dispositions. Et sur
après,
dur, bon, bah,
après,
c'est
ce
une
problème,
surface
c'est
intermédiaire.
Après, le physique, tenir la distance.
Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un joueur très polyvalent,
ouais, moi,
finalement.
Moi, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à l'époque, bon, ça remonte un peu, hein, où on s'était entraîné énormément ensemble. Et à l'époque, lui, il était avec Tariq Benabiles. Et juste après l'Australian Open.
Ça n'avait pas duré longtemps, Stéphane.
Non, mais juste après l'Australian Open, Eric lui avait dit voilà, on part faire la tournée. On est sud-américain sur terre, au lieu de revenir sur dur parce qu'il faut que tu travailles ton fond de jeu. Donc,
c'est vrai.
Il n'était pas bête non plus, notre ami Tariq.
Ouais, c'était pas mal cette tournée sud-américaine. Je voudrais qu'on l'écoute, Richard Gasquet, de bonne humeur, forcément, avec le sourire, mais comme l'a dit Émilie, je ne m'enflamme pas quand même, je ne vais pas trop vite en besogne, c'est peut-être pas plus mal. Richard Gasquet au micro de Georges Homsi après sa victoire sur Andy Roddick et sa qualification pour les quarts de finale de ce tournoi d'Indian Wells.
Non, c'est bien d'avoir pu gagner un joueur comme ça sur le central ici, j'avais perdu quand même 3 fois en 8e. Bah, à chaque fois j'avais perdu sur lui, sur Blake, sur Federer aussi, donc c'était un très beau match, donc je suis content d'avoir pu gagner. Quoi. Surtout que je dominais vraiment quand même, 6-3-4-2, je dominais. C'est important, je suis arrivé ici avec de la confiance, tout ça. J'avais bien joué à Dubaï, j'avais fait un beau match sur Gilles et un beau match sur Federer. Donc, je suis arrivé ici bien déjà. Bien à l'entraînement. Je me sentais que j'étais par l'épaule, un peu quelques douleurs, mais je sentais que je tapais bien la balle. Donc, c'est très important. Voilà. Je suis arrivé avec des victoires. C'est toujours l'éternel problème, la confiance, tout ça. Donc, je sentais que j'étais en confiance en arrivant ici. Puis bon, je me sens bien avec sincèrement avec Sébastien et Cardo, ça se passe bien. Donc, je joue bien, la surface me va pas mal. Donc, voilà, ça se passe pas mal. Quoi. Après, déjà, je me sens bien avec eux dans la vie de tous les jours. Mais avec Eric aussi, je me sentais bien. J'ai passé de très belles années, mais là, ça continue. Donc, la transition est bonne. En dehors, tu vois, ça fait presque deux semaines qu'on est ici. Je ne vois pas le temps passer. Je peux avoir quelques périodes. Des fois, aux États-Unis, je trouve que ça peut être un peu assez long. Là, je me sens bien ici. Je joue bien. Donc, ça se passe pas mal. Ce que je sais au tennis, c'est que c'est un éternel recommencement. C'est jour après jour. Donc, on ne peut jamais s'enflammer non plus.
Voilà, ne pas s'enflammer. Richard Gasquet qui trouve pas le temps long pour une fois sur la tournée américaine. Il a l'air bien.
Il a l'air
voilà.
heureux.
Il n'y a pas besoin chercher des mots compliqués. Il a l'air bien. Il a l'air d'avoir envie de jouer au tennis. Bon, faut pas qu'il sorte hein, dans 10 jours. Il reste
arrête de dire des choses pareilles.
Oh non, c'est une petite boutade. Mais voilà, non, mais il va bien. C'est cool.
Ah non, puis quand il gagne à la balle de match, il fait un truc que moi je l'ai jamais vu faire, c'est qu'il se retourne vers son clan en leur montrant c'est moi le patron, quoi. Ça y est, je l'ai fait. Et Richard Gasquet avec un peu d'arrogance face à un Roddick, honnêtement, c'est la nouvelle de la soirée.
Ouais, pas trop d'arrogance comme chez Richard Gasquet.
Non, mais
il serait malade. C'est
il a vraiment
qui
montré
coule.
À Roddick que c'était lui le boss sur ce match-là, et je peux vous dire que l'Américain, il l'a pas bien vécu du tout.
Alors on va faire un volte-face complet et dans la personnalité et dans les résultats, en tout cas sur ce tournoi d'Indian Wells, pour évoquer le cas de Joe Wilfried Tsonga, qui personnellement m'inquiète. Vraiment beaucoup. Alors, c'était pas tant la défaite d'entrée à Indian Wells, pardon, face à Xavier Malisse. C'est tout ce qui se passe là depuis 15 jours, 3 semaines autour de Joe Wilfried Tsonga. Et cette communication, certes transparente, donc on peut louer ça, mais sur son intention de changer de style de jeu, ou du moins de varier son style de jeu pour venir à quelque chose de plus agressif, pour écourter le côté physique du travail et des échanges, parce que il dit lui-même, Émilie, et moi ça m'a vraiment choqué, mon corps ne tiendra pas si je ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'il dit en gros clairement à toute la concurrence sur le circuit, physiquement je tiens plus, donc ou je joue comme ça ou je peux plus jouer. C'est un aveu de faiblesse, mais terrible.
Non mais quand est-ce qu'il a joué dans des filières longues, son gars?
Non mais d'accord, mais...
Moi franchement je le comprends pas, tu trouves qu'il parle en toute transparence?
Bah,
moi,
ça sent le plan comme...
Ou alors il nous enfume,
mais... C'est bizarre. Je sais pas qui le conseille au niveau de sa communication, mais personnellement je la trouve complètement nulle. Je comprends pas, que ce soit la Coupe Davis ou même là maintenant, il fait des déclarations... qui pour moi ça rime à rien, c'est pas digne d'un joueur de haut niveau quand il dit voilà je vais prendre la balle tôt, en gros je vais me jeter au filet, service volé, retour volé, attends ça existe pas ça. Oui service volé oui, mais enfin bon le tennis de maintenant il y a très peu de joueurs qui vont tout le temps au filet, pourquoi? Parce que ça joue plus vite, les joueurs jouent plus long, c'est plus difficile, donc déjà il faudrait un physique déjà hors norme pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Ensuite, c'est le joueur, alors lui, qui déclare « il me faut un grand titre, il faut que je gagne un grand chelem, etc. » Mais il n'est pas du tout en harmonie entre ses déclarations et ce qui monte sur le terrain. Il y a un monde d'écart. Donc c'est assez surprenant. Après, je pense que réellement, il a de gros problèmes physiques. Ça, c'est une certitude. Après, comment il les gère, j'en sais rien. Mais je trouve que dans sa communication, ça ne va pas. Sur le terrain, ça ne va pas. Enfin, en tout cas, les deux sont...
Il y a quelques bruits qui tournent autour du circuit, là, qui gravitent dans le circuit, qui disent vraiment qu'il est... Alors, c'est un peu ce qu'il dit en filigrane, d'ailleurs, dans ses déclarations. Il est sur un fil, justement. Oui, c'est que ça peut péter à tout moment et ça peut péter gravement.
Oui,
alors là, il y a l'hernie inguinale, il y a eu le ménisque, il y a eu le dos.
Il est en cristal.
C'est surtout le genou, apparemment, qui pose problème.
Tu ne peux pas, à Melbourne, envoyer promener toute une salle de presse qui lui pose des questions sur ses blessures en disant « Mais arrêtez de me parler de mon physique, vous me saoulez, tout va bien, il n'y aura pas de surprise dans un mois. » Un mois après, nous dire « Bah ouais, j'ai une hernie. » Et deux semaines après, « Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout, ma carrière, je m'inquiète. » Évidemment, on le sait qu'il est en cristal, mais le problème, c'est qu'on est tellement perdu dans sa com qu'on ne sait, plus ce qui se passe. Alors, qui disent je veux jouer plus vite, mais il me semble qu'il a tout le temps une filière hyper courte, son gars. Donc je vois pas ce qui va changer. Et que je suis d'accord avec toi, de dire à la concurrence, oh là là, en ce moment c'est la catastrophe physiquement, je vais pas m'en sortir. Bah tous les mecs qui vont le jouer vont le forcer à jouer dans une filière.
C'est ça, Julien, parce que moi j'ai souvenir de Rafael Nadal, par exemple, qui a jamais voulu parler de ses problèmes physiques. Le jour où il y a eu l'histoire du pied de son oncle, qui avait été un peu maladroit en fin de saison. Tout de suite, ça avait pris des proportions énormes. Et c'est vrai qu'en général, on essaye de pas donner d'indication à la concurrence, quoi.
Non, mais après, personnellement, moi, déjà sur un plan tactique, je pense que je me tairais. Et sur un plan physique, après avoir des déclarations, dire des choses et tout ça, ça peut passer. Mais comme tu dis, ça donne des indications. Même moi qui suis à la retraite, demain je joue de son gars à Roland. Je suis content de jouer de son gars à Roland parce que tu sais que si tu l'amènes dans un quatrième ou un cinquième set, il va plier. Donc déjà là, sur la saison sur terre battue, il te donne des indications.
Oui,
venez les gars, venez me jouer sur terre.
Faut-il qu'il la joue d'ailleurs cette saison sur terre battue? Soyons honnêtes.
Au moins Roland.
Il est en train de nous expliquer en gros qu'il vise une carrière avec des gros coups et qu'il nous dit je ne peux pas jouer personnellement une saison complète.
Qu'il fasse ce que fait Roddick sur terre. Il fait juste un tournoi, deux tournois grand maximum avant, et puis voilà, c'est tout.
Avec le risque de perdre le rythme, Roddick l'a tenté la saison dernière, il s'est planté son Wimbledon. La terre battue, ça t'aide, mine de rien.
Mais de toute façon, c'est pas sa surface, la terre. Donc de toute façon, faut qu'il joue.
Il s'en défend, hein. Il dit c'est pas
oui,
vrai.
Oui, mais c'est un Français.
Aussi. Il est pas bon sur terre.
Non, mais l'an dernier,
il y a plein de joueurs qui adoraient avoir son niveau de jeu, voilà, toute proportion gardée. Mais c'est pas un joueur de terre, il déclare qu'il a envie de jouer sur terre, mais d'ailleurs, comment il s'appelle son entraîneur
Vinogradski
l'a repris dans les journaux que son jeu n'allait pas être révolutionné en quelques semaines. C'est n'importe quoi. Et quand il dit qu'il veut gagner quelque chose de grand, ok, mais là il parle de tactique alors qu'il a un travail technique qui est énorme à faire. Il a un revers qui est quand même super limite et il a un retour de service qui laisse à désirer. Donc déjà, il y a quand même un travail technique à faire avant de parler serait-ce que tactique.
J'ai l'impression qu'il se noie dans des trucs périphériques. Alors, est-ce que c'est parce qu'il peut plus faire le travail de fond pour vraiment solidifier son jeu?
Est-ce qu'il en a envie?
Est-ce qu'il se fait influencer?
Parce que c'est un gros bosseur quand même,
oui,
normalement.
Mais est-ce qu'il se fait aussi influencer? On peut se poser la question par l'entourage. Parce que Roland Garros, pourquoi? Parce qu'il est français. Pour les sponsors, ça serait génial qu'il fasse un gros coup. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui lui disent, mais Joe, tu peux être top 5, tu vas gagner un grand chelem,
oui,
t'es top?
Alors, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus un joueur de gazon.
C'est un joueur de dur.
Bah oui, c'est un joueur de dur.
C'est un joueur de quoi, là?
Non, mais voilà. Pour moi, c'est un joueur de dur. Donc, tu peux pas non plus dire la saison sur terre, je la joue pas parce que un mec comme Mika, et encore pourtant son jeu sur terre en embête plus un,
il a quand même une balle de match pour aller en quart de finale en Roland-Garros.
Il peut se dire, moi je vais jouer à fond Wimb parce que j'ai peut-être un coup à jouer avec mon jeu. Tsonga, je suis pas sûr qu'il puisse miser ou tout parier sur Wimb, par exemple.
Comme dit Emily, c'est que il a, pour moi, depuis le début, alors il a vraiment par rapport à d'autres joueurs des lacunes techniques dans son jeu où tu sais pertinemment que si t'as une certaine phase de jeu, tu le joues, tu le bloques dans un certain endroit, et ça va être hyper dur pour lui. Donc déjà travailler là-dessus. Mais le problème, c'est que moi, je pense que sincèrement, pour m'être entraîné avec lui, pour l'avoir vu travailler physiquement, il peut pas tenir. Déjà, c'est un joueur qui est déjà à la base puissant, qui est quand même un peu lourd, donc ça plus ça, il peut pas travailler comme le fait ne serait-ce qu'un Gilles Simon qui est beaucoup plus fluet et qui peut passer du temps sur le terrain.
Est-ce que là, il sent pas aussi tout simplement que toutes les ambitions qu'il a eues, peut-être qu'il va pas réussir à les concrétiser? Est-ce que c'est pas une forme de panique et de se rendre compte que là, il est devant une limite qu'il pourra pas franchir? Parce que moi, je comprends pas non plus toute sa communication là. Honnêtement, c'est
après,
c'est
bizarre, il est peut-être paumé aussi.
Oui.
Ouais. Ça puis il y a aussi une chose importante, c'est que mine de rien, on le dit, on le répète, s'il joue pas à 200% sur un match, quasiment il peut se faire battre par tout le monde. Là, c'était le cas contre Malice, il fait pas un énorme match, il passe à la trappe. S'il est pas à 200%, s'il sert pas comme une brute, si son coup droit, vient pas enfoncer son adversaire. Voilà, c'est un peu ça le souci. Alors après, ça reste un joueur quand même exceptionnel, parce qu'il a fait quand même des résultats incroyables.
Non,
mais au fur et à mesure, les joueurs le connaissent un peu plus, savent comment il est, tout ça. Et comme le dit Émilie, je pense que voilà, il déclare parce qu'il arrive en conférence de presse et puis voilà, il sait pas trop quoi dire, donc il sort deux trois trucs comme ci comme ça quoi.
Alors écoutons-le justement sa justification avant le tournoi d'Indian Wells sur ce changement de jeu. Alors c'est louable quand on l'écoute comme ça de prime abord, mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger.
C'est des changements, donc forcément il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais je suis vraiment convaincu que c'est dans ces conditions-là que j'ai envie de continuer ma carrière. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Mon physique il tient pas, donc je suis obligé quelque part de changer les choses. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Alors comme partout, des fois il y a des galères. Hein. Puis quand ça s'ouvrira, je me dirai quand je galérais, ça a bien changé.
Joe Wilfried Tsonga, mon physique ne tient pas. Hein. Il prononce quand même ces mots, je trouve assez terribles. On lui souhaite bien sûr que ça tienne et qu'il continue à nous régaler avec de brillants résultats, mais on peut s'interroger. Ça fait suite quand même à il y a un petit mois ou deux juste avant le choix du maintien de Roland-Garros Porte d'Auteuil à une déclaration aussi à propos de ce futur stade déménagement ou pas, où il avait dit, alors pareil, c'était un peu au second degré, mais il avait dit, oh, de toute façon, le déménagement, peu importe s'il y en a un ou pas, parce que ça ne me concernera pas.
2016,
théoriquement, ça pourrait quand même le concerner. Donc,
qu'est-ce
qu'il se dit déjà ? Ouais, il n'a pas 20 ans, mais enfin, 2016, c'est quand même pas loin.
J'ai envie de dire que si, pour lui.
Bah non, il y a 29 ans, tu peux encore jouer. Donc ça veut dire peut-être qu'il se dit, j'ai plus que 3-4 ans à jouer, quoi.
Je pense qu'à mon avis, il n'a pas beaucoup d'années devant lui.
Hein.
Quand on parle de son physique, ça se trouve, ça va prendre un an. Enfin, j'en sais rien, le pauvre. Mais en revanche, dites-moi que je connais rien au tennis. Non, mais sérieusement, parce que là, dans cette déclaration, il dit, je vais changer, je vais révolutionner mon jeu. Mais il joue comment ? Il joue en filière courte,
Geoffrey Fritz. C'est pour ça que je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.
Est-ce que c'est un moyen?
Je vois pas où il veut en venir.
Est-ce que c'est
pas tellement, parce que justement après ces déclarations, tout le monde a dit justement alors puisqu'on sait tous qu'il joue en filière courte, tous les gens qui suivent le tennis ont dit à son coach notamment, bon bah alors OK, il va changer de filière, il va raccourcir parce que son physique tient pas, donc en gros, il va faire service volé.
Impossible.
Et Eric Vidugraski dit « Oh non, pas du tout, ça veut pas dire qu'on va faire service volé. » Alors, si tu fais pas service volé...
Ce qui est paradoxal dans tout ce qu'il dit, c'est que on se rappelle juste, il y a un an et demi, deux ans, il change de raquette. Il prend, bon, on va dire les noms. Il passe de Wilson à Babola. Pour avoir une raquette avec laquelle il va plus lifter, donner plus de volume de balle sur terre battue, pour avoir...
Gagner en contrôle sans perdre en puissance.
Voilà, pour avoir un jeu plus installé en fond de court. Première chose. Là, l'année passée, on le voit jouer, il dit « Je veux arriver sur terre battue, faire une grosse saison. » Il fait Monte Carlo, Barcelone, en faisant des bons matchs. Et il joue quand même loin derrière, il dit, il faut que je vienne un peu plus devant, parce que quand même, le jeu, c'est de venir vers l'avant. Et voilà, à chaque moment, il relance ça, mais comme dit Émilie, moi, sincèrement, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr et pour savoir que Joe, il ne peut être que bon quand il joue, entre guillemets, à 200%, comme il a pu faire l'Australian Open. Gros service, coup droit, je viens pousser la volée quasiment, quoi.
Est-ce que c'est pas un truc psychologique qu'on a essayé de lui dire pour le remotiver ou pour et le puis, faire moins paniquer?
Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que avec ce qui est hallucinant, c'est avec le niveau qu'il a, l'expérience quand même qu'il a, l'encadrement qu'il a, il est encore à ce niveau maintenant et son âge de se poser les questions, comment je dois jouer, je vais changer mon jeu, je viens plus vers l'avant. Un jeu, dans ce qu'on appelle la formation dans le tennis, c'est voilà, tu fais ton jeu, ton fond de jeu entre 14, 18, allez 20 ans maximum. Après, t'as des bases et tu continues à travailler dessus. Là, il nous sort des trucs. Moi, voilà, je trouve que, comme dit Émilie, ça colle pas forcément. C'est en décalage un petit peu.
Mais il se rend peut-être simplement compte que son jeu à lui, qui on le sait tous, est un jeu basé sur un gros service, un gros coup droit en 2-3, 4-5 frappes. Et ben, quand le physique n'est pas à bloc et aujourd'hui il a des problèmes physiques, il ne peut pas tenir face au meilleur. Donc il se dit, va falloir que je change, sinon je n'existerai plus.
Donc il va descendre. Citez-moi un joueur aujourd'hui qui joue en deux frappes, trois frappes.
Impossible.
C'est impossible. Impossible.
Même Söderling le fait.
C'est Federer qui peut jouer comme ça.
Puis même quand on regarde dans l'absolu.
Il faudrait qu'il joue comme ça.
Il dit, je vais venir beaucoup plus vers l'avant. Il n'y a plus un joueur qui fait service volé, retour volé. Donc déjà, c'est plus en 2-3 coups de raquette, c'est plutôt en 4-5.
Exactement.
Et celui qui peut le faire, à la rigueur, c'est Federer quand vraiment il se donne les moyens. Et Federer, il n'en a pas 50. Hein.
Et puis Federer, il peut le faire contre beaucoup de monde,
mais pas contre les
Nadal, Murray.
Ça passe pas, parce que physiquement, ce sont des monstres.
Et ils retournent de plus en plus.
Ils retournent bien,
ils ont une super couverture de terrain. C'est terminé le truc en 2-3 frappes.
Le talent de passing de ces mecs-là, la couverture de terrain de ces mecs-là, de manière, est tellement supérieure à celle de Tsonga qu'il a aucune chance.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs modernes, les tout meilleurs, il n'y a plus de failles dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils sont costauds du fond, ils ont tous des services qui
c'est
peuvent...
pour ça
c'est dans la tête,
que Roddick.
Ah oui.
Eh oui.
Il plonge tout doucement.
Mais Roddick, ça fait quoi?
Ça fait un an.
Il arrivait à maintenir un peu avec son gros service,
mais
la pression.
La finale perdue à Wimb, alors que c'était vraiment son année. Federer était prenable. Nadal était pas là.
Ça s'est arrêté après Miami l'année dernière. Et depuis Miami l'an dernier, il avance plus, quoi. Et tu sentais même Stefanki sur le bord du cours hier. Dans son comportement, tu sentais qu'il y croyait même plus. C'était là, je pense honnêtement, que Roddick, on va le perdre, mais assez rapidement.
Ouais, très très compliqué pour Andy Roddick. Juste un petit mot sur les autres Français. Mon fils, toujours pas de nouvelles, hein, ça commence à durer. Simon n'a pas fait un bon tournoi avec Karlovic.
Karlovic, honnêtement, sur ce match-là.
Il arrive de terre.
Si ça se trouve, Karlovic, il va battre Nadal.
Sur ce match-là, Karlovic était vraiment très très fort.
Karlovic peut battre Nadal à tout moment, parce que là, t'as parti du moment où il sert.
Il tient bien du fond, hein. Il est contre Simon, honnêtement, du fond, il jouait mieux que lui.
Oui, en plus, il est pas maladroit.
Simon, on l'attend sur terre battue, en tout cas. C'est déjà la pause.
Bon, tu l'as dit, Mikael Audra qui prend 3-3 sur Troichy.
Ah oui, l'attitude. Très mal.
Mikael Audra, il est au fond du trou, lui aussi, en ce moment.
Ouais.
on va le laisser tranquille pour pas l'enfoncer encore un peu plus. Une courte pause, les infos, et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Carrément Tennis. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Benoît Mélin, on s'inquiète. Benoît, fais-nous signe si tu es là.
Ça, c'est pas mon truc.
Réagissez aux émissions de RTL L'Équipe sur le mur Facebook ou sur contact@rtl-l'équipe.fr. RTL L'Équipe.
Croisée courte gagnante.
Carrément Tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis consacrée bien sûr au Master 1000 d'Indian Wells. Les quarts de finale déjà programmés qui vont débuter ce soir avec notamment Karlovic Nadal. On va en parler des meilleurs mondiaux Nadal Federer après avoir évoqué les Français dans la première partie de l'émission. Novak Djokovic peut-il être battu dans ce début d'année 2011? Pour l'instant, personne ne lui résiste, mais les matchs les plus intéressants sont bien sûr à venir. Et puis on parlera du tableau féminin avec cette très très belle demi-finale pour Marion Bartoli, opposée demain à Janina Wickmayer, la Belge. Un bon coup à jouer donc pour rejoindre la finale de ce tournoi d'Indian Wells.
RTL L'Équipe, Carrément Tennis.
Toujours en compagnie de Carole Bouchard de l'équipe.fr et de nos anciens joueurs Julien Varlet et Émilie Lois. Toujours pas de nouvelles de Benoît Mélin. L'avion de Myrtille Rambion n'a pas encore atterri aux États-Unis, mais il n'y a pas de souci, nous sommes là avec vous pendant encore 25 minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse aux meilleurs après avoir évoqué les Français, même si on espère qu'un jour les Français feront partie des tout meilleurs. Nadal, Federer, Djokovic, le trio magique. Derrière ça, a décroché Söderling.
Ouais, je dirais Söderling, ouais.
Söderling, comme à l'Open d'Australie, décevant.
Ouais, et en plus, je crois qu'il a une blessure au pied gauche hein, depuis la Coupe Davis. Donc, il a beaucoup joué. Et c'est pas un gabarit qui peut peut-être enchaîner autant.
Battu par Cole Schreiber en 2-7.
Ouais, Cole Schreiber, c'est... Alors, celui-ci, c'est un baromètre.
Oh bah, c'est un,
il
c'est
est
un
terrible.
Mec qui est bon. Qui est bon, mais qui n'arrive pas à passer le cap supplémentaire.
Mais c'est un joueur échelon. C'est-à-dire que quand tu le bats, c'est que tu joues bien. Et quand tu passes pas, c'est que t'as du boulot.
C'est pas faux.
Il a une qualité de frappe, moi je trouve, encore contre,
il a
contre
très
Del Potro.
Presque trop beau.
La dernière fois que j'ai joué, j'ai pris 0-0, ouais. Donc j'ai beaucoup de boulot là.
Non mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
C'est un joueur qui a un niveau moyen,
ouais,
un joueur intéressant, qui a un jeu presque trop beau.
Ouais.
Presque trop lisse, presque trop parfait.
Et qui mentalement, des fois comme hier, hein, il mène 6-1 dans le tie-break contre Del Potro. Lui, il est déjà au troisième. Il arrive pas.
Cole Schreiber que les Français retrouveront sur leur route en Coupe Davis, hein, avec Pechner, ouais, et Florian Mayer.
Très belle équipe, hein. Très belle équipe allemande.
Ouais,
bah,
on
c'est l'an dernier. Hein.
Moi, je dis
c'est
très
quand même
équipe.
La nation avec nous qui a le plus de joueurs dans le top 100.
C'est bien. Vrai, c'est vrai. Donc Söderling a décroché. Mine de rien, il a gagné 3 titres quand même, Söderling, depuis le début de l'année. Mais dans les deux grands tournois, ouais, qu'il a joué, Indian Wells et l'Open d'Australie, il a un peu déçu. Donc,
bah, c'est un dur lent, donc ouais, ça peut pas lui convenir.
Miami sera peut-être mieux pour lui.
Miami, ça va être beaucoup mieux pour lui. À mon avis, ça va être
c'est,
bien
c'est,
pour lui.
L'année passée, c'est à Miami ou Indian Wells qui avait fait demi-finale?
C'était Indian Wells, il perd les points, il a fait 2000 en dernier Indian Wells.
Parce que c'est la surface, je trouve qu'il...
On l'a vu dans les déplacements. Qu'est-ce qu'il avait du mal à courir après la balle.
Et puis on a toujours perdu. Alors Andy Murray, alors là, il est...
Non, mais moi, franchement, ça me fait de la peine, là. Honnêtement. Parce que perdre contre Donald Young, non, mais.
Surtout
personne Young perd contre Donald Young dans le top 100. Personne.
Il n'y a que Richard Gasquet qui, des fois, va pas jouer contre lui.
Il rôtit.
Un zombie.
Non, mais c'est vrai que.
Et il a encore. Non, il a perdu en double.
Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve que voilà, les joueurs, il y a une période un peu bâtard après l'Australian et tout ça. Il faut qu'ils reviennent un peu aux affaires. Nadal avait arrêté. Il a repris par la Coupe Davis. Federer revient tout doucement. Donc, je trouve pas que le niveau de jeu soit terrible, terrible. Donc, il faut qu'ils reviennent.
Toute petite parenthèse.
Ils sont tellement durs avec lui. Honnêtement, on disait de la pression qu'il y a autour d'un Gasquet. Ce qui sort en ce moment sur Murray, c'est scandaleux.
Alors, toute petite parenthèse sur la Coupe Davis, puisque vous en parlez. Deux gros retours annoncés quand même en Coupe Davis. Roger Federer et justement Andy Murray, qui va défendre les couleurs
le
de la Grande-Bretagne en troisième division. Mais parce que derrière, il y a un coup marketing aussi. Il voudrait jouer ça en Écosse. Dans son pays, à l'université. Voilà,
mais donc, il a surtout plus le choix. Il les a laissés tomber. Même son frère était foudrage contre lui parce qu'il venait pas. Et Federer, je le croirais quand je le verrais.
D'accord.
Mais bon. C'est un coup marqué.
Exactement.
Puis c'est, il faut qu'il joue aussi, il me semble, par rapport aux Jeux Olympiques.
Voilà.
Donc je veux représenter mon pays, je veux jouer pour mon pays.
Pitié,
et toutes les grandes
quoi,
phrases. Non mais c'est bon.
Non mais c'est clair. Là on est en mars, on verra quand la rencontre
approche.
Voilà. C'est un monstre, il a une carrière de dingue, il a pas besoin de nous raconter des crânes pareils.
C'est en juillet, ça dépendra les résultats à Wimbledon. Donc Söderling et Murray qui sont les seuls qui arrivaient à s'accrocher au trio de tête. Ouais. Eh ben Indian Wells n'ont pas fait bonne figure, donc il reste ce trio magique: Nadal, Federer, Djokovic, dans cet ordre. Pour l'instant, j'ai envie de dire,
alors,
parce que
ça va rester,
autant vous dire que le troisième nommé, et donc le troisième au classement ATP, c'est juste la terreur
il
du
est
circuit.
Énorme. Il est énorme.
17 victoires consécutives, invaincu en 2011, victoire à l'Open d'Australie, victoire à Dubaï, il met des doudounes à tout le monde, Julien Varlet, et il dit « Je joue le meilleur tennis de ma vie. Novak Djokovic est-il prenable dès Indian Wells ?»
Sur un match, probablement, mais là, depuis son début de saison, je trouve que... De toute façon, il a pas à parler. Hein. Il dit rien, ses résultats parlent pour lui-même, pour lui. Donc, voilà, quoi. Après, vraiment, et on en parle encore un peu plus, parce que là, il vient d'enchaîner, mais moi, depuis l'US Open, je trouvais qu'il jouait réellement, réellement bien. Et plus
où
la
il
Coupe
fait finale
Davis,
contre
voilà.
Nadal,
une super
plutôt bonne
contre
finale.
Plus la Coupe Davis qui vient de se mettre dessus et tout ça. Donc voilà, il est tranquille. Et puis, comme je le dis, voilà, ses résultats parlent pour lui. Donc
finalement, si on accepte la défaite relativement sévère au Masters contre Federer, parce que même en finale de l'US contre Nadal, bon, bah, c'est un gros match.
Est là,
Nadal
hein.
est monstrueux.
Il
voilà.
s'est battu. Hein.
Derrière, voilà, c'est un sans faute, quoi.
Ah ouais, non, il est.
Et puis dans la.
Puis je trouve encore qu'il a progressé. Ouais. Il joue mieux. Il a une meilleure
et
couverture.
Et le Durland, alors lui,
fort.
Pour coup, c'est pour lui, quoi.
Le
dur un peu lent.
Ah, mais dès que...
ah, mais le dur lent, c'est pour lui, j'ai compris. Roland, c'est
non,
pas lui. Non, ça, c'est pour ça que.
Le dur lent pour.
Le dur lent,
pour Novak.
C'est pour lui. Mais j'ai envie de voir une opposition, en fait, Djokovic-Nadal.
Ouais,
qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce que c'est vrai que la dernière fois, donc c'était à l'US Open, le grand rendez-vous.
Ouais,
mais... Il y a encore un petit
il a énormément
hein.
progressé ouais. depuis l'US.
Je pense que sur
donc,
ce tournoi-là,
comment ça.
Djokovic
comment ça
lui en mettrait une bonne. Parce que Nadal revient à la compète, il gagne ses matchs et tout ça, mais
alors,
c'est un peu
le problème, c'est que
c'est
lui,
un peu forceps,
toutes hein. les têtes de série ont disparu, donc il joue.
Bah, sa faute, hein.
Il joue un tournoi, on a l'impression qu'il joue un challenger.
En même temps,
Nadal,
Djokovic, en ayant
il
des
a
matchs
joué Rick
super
DeVos,
faciles,
Sweeting.
Ouais, mais ça c'est pas sa faute. Hein.
Et Devarman, dont on reparlera peut-être parce qu'il a déjà embêté les Serbes en Coupe
Très
Davis,
bon
un jeune Indien qui joue alors pour le coup tout en défense et qui court partout.
Ouais, mais il a pas
Roland,
il
a du culot.
C'est un gag. Alors lui, il est 3 mètres derrière.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est le défenseur.
Il s'accroche.
C'est le défenseur pur qui court partout.
Il a l'attitude de dingue.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est un Indien. Nous, on a l'habitude des Indiens, c'est service volé, retour volé. Lui, il est 4 mètres derrière et
il a un super coup d'œil, puis une attitude géniale. Enfin, il joue.
Il est en train de monter.
Il a tout donné contre Rafa. Il a eu zéro complexe et il l'a bien bien bousculé quoi.
Mais là déjà si bat Karlovic
oui.
je pense qu'il rentre réellement dans son tournoi Nadal mais après
moi, je veux voir Nadal
sur Djokovic
il y a des trucs à dépoussiérer parce qu'hier il a vraiment semblé un peu rouillé, il a pesté sur son coup droit qui arrêtait pas de sortir, le revers c'est un peu coincé, Tony est pas là
bah, même
et...
en Coupe Davis, attends il a joué,
joué
Bennerman et Olivier Rocuse
oui mais il lui faut un match test comme Djoko, il lui faut un match test aussi parce que là il perd 6 jeux en 3 matchs, il est sur un nuage, faut le voir quand ça va.
Djoko, autant Nadal a besoin d'un match test,
ouais,
autant Djoko les a fait ses match test.
Djoko tu vois il joue quand même Golubev, Gulbis, Trojki,
tu te rends compte, il prend pas des peintres, il leur
met 0 rien quoi.
Moi, ma pièce 7, c'est sûr. Alors, peut-être pas là maintenant tout de suite, mais je m'engage. Del Potro sera Masters en fin de saison.
Ouais.
Alors, vous voulez qu'on évoque le cas Del Potro ? Vous avez tout à fait raison. On va
il
laisser Federer de côté quelques secondes.
Il est fantastique.
Juan Martín Del Potro, donc de retour officiellement pleinement sur le circuit pour cette saison 2011. Il avait déjà commencé à revenir un tout petit peu en fin d'année dernière, histoire de prendre la température. Donc, je vous rappelle sa saison quand même. Demi-finale à San José, battu par Verdasco. Demi-finale à Memphis, battu par Roddick. Il vient de gagner Delray Beach et il vient d'enchaîner donc par un quart de finale à Indian Wells. Il en est à 9 victoires consécutives. Il est passé en 2 mois de la 485e place mondiale, où il était retombé, à la 90e. Il va être dans les 50 dans même pas un mois.
C'est là où ça va commencer.
J'espère que le physique va tenir parce que il joue beaucoup, là, il enchaîne beaucoup. C'est quand même un joueur qui est fragile. Hier, il a eu un petit coup de mou, mais moi, j'ai adoré l'attitude. Parce que, honnêtement, il s'est battu, il a dominé. Après, on sent qu'il manque un peu de confiance. Donc, il se bat sur tous les points. Il rate des trucs, c'est pas grave. Il rate 3 coups droits, il se fait rejoindre. C'est pas grave. Et jamais il lâche. Et mentalement, on l'avait vu quand il gagne l'US Open. C'est un rock, c'est un Nadal dans la tête, ce garçon. Il y a une combativité sur chaque point qui est hallucinante
pour
son gabarit.
Aussi l'envie du mec, pardon, du joueur qui a pas joué depuis très très longtemps. Donc voilà, il revient sur le circuit, il a envie de tout manger, tout bouffer. Mais voilà, si physiquement il tient, moi sincèrement je le vois au Masters fin d'année.
Alors avec des matchs pour le coup, alors pas des seconds couteaux, enfin j'ai juste derrière les top 10 quoi. C'est-à-dire qu'il bat quand même des joueurs comme Stepanek,
Ljubicic
tenant du titre, Dolgopolov et Kohlschreiber. Donc ce sont tous quand même des joueurs.
Et puis Dolgopolov, c'était
un
super match.
Il joue bien en plus en ce moment.
De bons étalons.
Dolgopolov, c'était un super match entre les deux.
Le seul petit souci qui peut arriver pour lui, ça dépend s'il utilise son classement protégé ou pas. Parce que s'il n'utilise pas son classement protégé, il peut prendre des têtes de série d'entrée.
Il a le droit de faire à Roland. Je sais pas comment il va faire.
Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut le demander. Parce qu'à Monte Carlo, il a pas demandé à son.
Est-ce
donc
que
il
tu
est pas dans le
tête de série en utilisant ton classement protégé.
Il peut le demander sur.
T'es sûr?
Je sais qu'une Srebotnik l'avait fait en revenant de blessure pour un grand chelem. Il fallait qu'elle choisisse quel grand chelem c'était et elle avait choisi.
En tout cas, info en Master 1000 non et à Monaco non plus parce qu'il n'est pas dans le tableau. Les organisateurs d'ailleurs attendent sans doute une demande de wildcard. Qui lui donneront
mais
probablement
est-ce qu'il a
s'il
encore un classement protégé parce qu'il a rejoué en fin de saison dernière.
Bah, normalement, t'as un classement protégé pour, bah, par rapport à son arrêt, il a un classement protégé où c'est 8 ou 9 tournois. Après, il choisit les tournois qu'il veut. Maintenant, avec le classement où il est, il rentre dans les 80. Ça veut dire que sur certains tournois, par exemple Roland Garros, il sera pas obligé de prendre un classement protégé.
J'espère qu'il
Mais
le prendra, t'imagines.
S'il prend son classement protégé, qui doit être, je sais pas, 10 ou 15. Même peut-être un peu au-dessus, voilà, là il sera.
Mais Roland Garros sera déjà dans les.
Mais c'est pas
les
joueurs qui peuvent pas rentrer dans un tableau final, peuvent donc utiliser le classement protégé. On aurait dû l'utiliser une fois sur les 4 grands chelems. Donc ouais, tu choisis ton grand chelem. Ouais. Mais je suis pas certaine que tu puisses utiliser ton classement protégé pour être tête de série. Je crois pas.
De toute façon, il le sera très vite.
T'imagines un premier tour de Roland Nadal Del Potro.
Regarde, 32e, il va jouer Indian Wells Miami. Avec 0 points, il joue 2 bons tournois même sur terre.
Et il fait un gros coup encore sur terre.
Voilà, et à Roland, il sera presque dans les 32 et dans les têtes de série.
T'imagines un premier tour d'El Potro Nadal ?
Ouais, mais dans.
Mais physiquement, faut qu'il fasse gaffe aussi. Est-ce que c'est son intérêt de jouer toutes les semaines pour être
il a
vite,
pas joué, bien sûr.
Ouais, non, mais il a fait au VO entre guillemets sur la Coupe Davis.
Ouais.
Il s'est reposé un petit peu, donc non, je pense pas qu'il va faire n'importe quoi. Là, il va jouer Indian Wells et Biscayne derrière. Il va souffler un peu.
J'espère.
Mais
c'est bien pour le tennis qui revient.
Il faut pas qu'il ait mal, surtout.
Il joue contre Robredo en quart de finale.
Logiquement, ça va passer.
Mais Robredo,
c'est 150 ans qu'il est sur le circuit.
Quart.
Ouais, mais rendons grâce
à lui.
Il est combien? Il est 15? Non.
Le mec, il est. Non, il est 25.
Il est un peu chuté.
Mais il est. L'année dernière, il était en quart de finale d'Indian Wells. Cette année, il est en quart de finale.
Il gagne les matchs qu'il doit gagner et il perd quand il perd.
Puis c'est quand même le joueur qui, dans l'absolu, fait pas grand chose, quoi. C'est propre et tout ça. Mais il fait pas un point gagnant.
Il est toujours là.
Non, mais il est toujours là. C'est un baromètre.
C'est énorme.
C'est vrai que je suis pas hystérique à regarder.
Ah non, mais personne est hystérique.
C'est un gentil garçon,
mais bon,
il est là. Il fait un huitième, il fait un quart, il gagne quand il doit gagner et puis il perd.
Allez, avant qu'on évoque les filles quand même et qu'on se laisse un peu de temps pour parler des filles, un petit mot sur Federer, qui pour l'instant lui aussi attend un peu.
Je suis super déçu qu'il ait pas joué Raonic. J'en veux à Harrison, mais t'imagines même pas.
Ouais, Raonic qui a plié après son 28e match en 3-7 contre Harrison.
J'avais trop envie de voir.
Harrison, on en reparlera peut-être.
Ah, c'est un joueur d'avenir.
18 ans. Le gars, il est arrivé, il a dit, moi, je veux être numéro mondial.
Mais il a pas mal tourné en challenger récemment. C'est un américain.
Spirit, hein.
Mais c'est un bon joueur. Lui, c'est un joueur d'avenir. Eux qui cherchent désespérément qui va prendre la suite de Roddick, je pense que c'est Harrison d'autre. Il est pas encore flamboyant.
Non, mais même techniquement et tout ça, moi, il me fait pas vibrer.
C'est pas en quart de finale que Federer va se tester, hein, je pense.
Honnêtement, les tableaux de Nadal.
Comme à chaque fois que Wawrinka joue Dieu le Père.
Je pense que quand il a vu que Wawrinka avait battu Berdych, il a dit merci. Parce que Wawrinka, dès qu'il joue il joue plus, donc.
Par contre, la demi contre Djoko, on l'attend. Hein.
Peut-être Richard.
Je crois que c'est.
Souhaitons Richard, bien sûr.
T'as parlé du trio magique tout à l'heure. Pour moi, il y a Nadal, Djoko. Ouais.
Ah oui.
Je trouve que c'est un peu le duo. Et attention, j'enterre pas. C'est mon point de vue. Si je devais faire un.
Oui, tu sens.
Dur, c'est quand il a envie.
Même quand il a envie, face à Djoko, je le vois pas gagner, quoi.
Face à un bon Djoko, je le vois plus gagner.
Non.
Ouais, enfin là, il a quand même battu au Masters, par exemple. Tu vois, c'est pas si vieux que ça, donc.
Mais je trouve que depuis 2011, c'est un autre joueur.
On verra. Mais c'est pour ça qu'on a des instructions à prendre là. Moi, je pense que j'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout, parce que bon, on a déjà perdu Söderling et Murray. Donc moi, je veux ma bataille des chefs là.
On espère l'avoir. En tout cas, la terre battue va arriver aussi derrière. Ça va redistribuer un peu les cartes. Federer vient à Monte Carlo.
Pourquoi est-ce qu'il se rend compte enfin qu'il faut qu'il joue un petit peu quand même avant les grands chelems?
Pas enfin, parce qu'il l'a joué pendant des années. Ouais.
L'année dernière, il a fait un peu une impasse. Il a joué toutes les tournées sur terre battue en marchant. Est-ce que là, il se dit, il faut que je gagne des points parce que sinon, je vais être 3. Oh, mon Dieu, quelle horreur, 3. Et c'est intéressant.
C'est ça, il y a 2 ans,
là.
Il avait dit, je ferai pas Monte Carlo. Mm. Et puis juste après la grossesse et la naissance, finalement, il était venu.
Ouais, mais il est passé à travers.
Il était venu quand même. L'année dernière, il avait fait le choix de pas jouer. Alors que les années précédentes, il avait fait 2 finales contre Nadal. Donc c'est vrai qu'il sait pas trop.
Bon. Non, mais
puis à l'âge aussi quand même, mine de rien.
Eh oui.
Ça joue. Hein.
Ouais, parce que la saison, une fois de plus, on va arriver sur terre après. Et la saison, il est très condensée en très peu de semaines.
Il fera des impasses, à mon avis. Il va faire des impasses derrière. Il sera pas.
Il a gagné son Roland. Il le regagnera probablement plus. Donc voilà. Après, il va se concentrer sur Wimbledon qui.
C'est clair. Roger Federer donc en quart de finale d'Indian Wells face à Wawrinka. L'affiche des quarts de finale: Wawrinka, Federer, Gasquet, Djokovic, Karlovic, Nadal et Del Potro, Robredo. On tirera bien sûr tous les bilans de ce tournoi d'Indian Wells la semaine prochaine dans Carrément Tennis. Like
this. RTL l'équipe. Carrément Tennis.
Et peut-être que Marion Bartoli aura gagné le tournoi.
Eh, Moi, j'ai adoré son match hier. Non, mais franchement, dans l'attitude.
Adoré dans l'attitude, parce que le match était nul. Hein,
ah, mais elles ont oublié de servir. Non, mais elles ont oublié de servir. Ah
bah, 13 breaks en 2 sets. Attends.
Mais par contre, moi, j'étais surprise de voir Bartoli. Physiquement, elle a tenu les 2 sets en faisant pas mal d'essuie-glaces du fond. Et dans l'attitude, elle s'est pas plainte, elle a pas chouiné, elle allait au combat. Et moi, je l'ai trouvée, honnêtement, elle m'a fait plaisir, quoi.
Le fameux niveau moyen, Marion Bartoli, 18e mondiale, meilleure française. Demi-finale après avoir battu Kleisters. Qui a dû abandonner quand
bah,
même.
C'est le coup du sort, mais moi je m'inquiète. Hein. Je m'inquiète souvent, mais Kim, l'épaule, elle a même pas tenté un jeu de plus. Hein, voilà.
Ouais. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que.
Elle a pas tenté un jeu de plus. C'est-à-dire que elle, le kiné est venu, elle s'est fait masser, elle a fait un point derrière et elle a abandonné direct.
Bah, elle a trop mal. Hein.
Bah, c'est pour ça que moi je m'inquiète.
C'est vrai, Émilie, que poignet, genou, épaule, ce sont les trois blessures dangereuse et problématique pour un joueur de tennis.
Et elle dit qu'elle le traîne depuis Melbourne. Elle dit qu'elle le traîne depuis Melbourne. Hein, cette douleur à l'épaule. Donc je ne sais pas.
C'est malheureux parce qu'en plus elle joue pas tant que ça en plus Clashers. Bah oui. Donc si elle joue pas beaucoup et qu'elle arrive à se blesser, pas terrible.
Disons que c'est une carrière qui est différente des autres. Voilà. Quoi. C'est ouais. Après comment elle vit, enfin son quotidien, etc.
Je pense qu'elle fait pas forcément tout pour.
Je sais pas.
Elle a pas besoin, elle gagne quand même des grands chelems.
Ouais, non, bien sûr, c'est pour ça.
Je pense qu'elle est focus sur les grands chelems. Là, elle vient à Indian Wells, à mon avis, parce qu'il faut venir à Indian Wells. C'est quand même pas le tournoi le plus excitant de l'année. Même si c'est un gros tournoi, c'est quand même le truc. Tu sors la corde et tu t'es pas loin de te pendre. Mais.
Au grand dam du promoteur du tournoi qui va en faire un tournoi différent. Mais meilleur que les grands chelems.
Elle a le titre à Miami à défendre derrière. Mais tant mieux pour Marion.
Mais j'ai bien aimé, moi, c'était pour Marion.
Ah
effectivement,
oui.
Je suis d'accord avec Carole. Je trouve qu'hier, elle a une attitude sympa. D'habitude, elle est pas loin quand même de se faire choper le deuxième set, d'être un set partout. Et tu vois rien, il n'y a pas de choses négatives. D'habitude, elle a un problème n'importe où,
exactement.
Voire
finalement,
partout.
Finalement, son seul problème, c'était à 5-4 au premier quand elle a eu un coup de choc, qu'elle a fait venir le médecin. Mais
oui, bon. Mais en même temps, alors par contre, Ivanovic, non mais c'est du grand guignol. Parce qu'elle fait venir son sparring partner, parce qu'elle a plus de coach, elle a viré tout le monde. Elle a viré un coach parce qu'il lui disait, faut que tu reprennes
Olivier
du poids.
Olivier Morel.
Oui. Et elle a reviré le deuxième coach parce qu'il lui a dit non, faut que
le
tu perdes du poids.
De Julien Varley.
Et donc, elle le fait venir sur le court, mais elle l'écoute pas. Elle le pourrit pendant 2 minutes. Elle le pourrit pendant 2 minutes, elle chouine, elle l'écoute même pas. Et donc elle
mais une fille a besoin de gueuler sur un mec, c'est comme
elle
ça.
L'a fait, non mais elle l'a joué.
Ça fait du bien.
Elle l'a joué melon, elle a pas supporté que Bartoli l'amène du fond. Voilà, et donc elle s'est bloquée toute seule. Elle a fait une crise de princesse. J'arrive pas à gagner, je comprends pas. Et donc Bartoli, elle a un sens tactique. Ivanovic sait toujours pas jouer au tennis. Donc la logique a été respectée.
D'accord. Elle avait pourtant battu Jankovic qu'on revoyait.
Ouais, mais parce que Jankovic, elle a un blocage énorme face à Ivanovic et qu'en puissance, elle est débordée. Alors que Marion, en puissance, moi, je m'attendais à ce qu'elle souffre plus. Et mais non, elle a vraiment
tenu. Marion, quand on parlait de coller sa ligne pour Richard Gasquet,
mais
quand elle colle sa ligne,
elle
est bien.
Sa ligne, elle retourne, elle est au filet
mais
déjà.
C'est ça. Et dans l'attitude, c'était elle la patronne et la Serbe, elle a fait un.
C'est sa première demi-finale à Indian Wells. Elle avait fait à Miami.
Ouais, mais c'est le genre de surface qui lui plaît. Hein.
C'est bien pour les points parce
que Miami,
que,
Miami, ouais.
Elle a une demi
jardin,
à défendre.
Ça va 100 000. C'est vrai que là, c'est moins sa surface, Indian Wells, mais voilà. Et physiquement, je trouve qu'elle est bien.
Ouais.
Elle est beaucoup mieux dans sa couverture de terrain. Donc, non, c'était pas mal. Hier, c'était pas un match
grandiose.
Non, mais fallait
grandiose,
le gagner.
Il faut le gagner
au niveau
quand même.
Du service, etc. Ouais. Enfin, il y avait beaucoup de choses à redire, mais fallait le gagner. Je trouve qu'elle
a gagné
de belle
ouais.
manière.
Exactement. On va l'écouter, Marion Bartoli, au micro de Georges Homsi, qui justement lui a demandé si elle n'est pas surprise de se retrouver en demi-finale du tournoi d'Indian Wells.
Assez plausible parce que je l'ai déjà fait à Miami, donc je suis pas quand même aussi loin que ça au classement pour ne pas penser à pouvoir faire un résultat comme ça. Maintenant, c'est évident qu'ici, j'ai souvent calé à partir des huitièmes de finale. Et c'est vrai que d'être aujourd'hui en demi-finale, d'avoir un jour pour récupérer demain, ça va m'aider. Mais j'ai un tour encore bien jouable en demi. À Miami, l'année dernière, j'avais joué contre Venus Williams, qui est toujours très difficile à battre. Cette fois-ci, ça sera un tour plus abordable, entre guillemets, même si ce sera un match très difficile. Mais c'est vrai que je suis très heureuse et très contente d'être en demi-finale d'un tournoi aussi important que Indian Wells. Je suis simplement contente de prouver encore une fois que je suis capable d'être au plus haut niveau. Maintenant, j'ai encore pas mal d'années devant moi, donc je ne me fais pas vraiment de pression en disant c'est bientôt la fin. Donc chaque résultat compte encore plus. Je suis simplement heureuse de les faire parce que je travaille pour ça et je suis contente que le travail que j'ai entrepris avec mon père depuis longtemps continue à payer au plus haut niveau. Mais je vais évidemment pas me contenter de simplement être en demi-finale d'un seul tournoi. J'ai plus d'ambition que ça.
Marion Bartoli, qui a de l'ambition. Elle déclare clairement qu'elle, la place de numéro 1 français, c'est important pour elle.
Toujours, ça a toujours été.
Et c'est bien quand même, c'est une nana qui en veut, on sait. Elle a...
Ouais, mais bon, elle joue pas en Coupe de Vie, en Fed Cup, alors. Ouais,
mais c'est l'orgueil. Mais Marion, elle a toujours voulu être numéro 1 française. Elle a toujours dit qu'elle serait top 10.
C'est pour ça qu'elle est numéro 1 française.
Un pied de nez à toutes les autres, parce que son système est différent, parce que son père, parce que ceci.
On est d'accord, mais c'est cette parano un peu qui, quelque part, l'a fait avancer, l'a fait gagner. On l'en sortira pas, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Mais n'empêche, demi à Brisbane, demi à Doha.
C'est la meilleure française depuis le début.
Kara Kuala Lumpur. Elle est en demi à Indian Wells.
Et elle sera peut-être top 10 à la fin de la saison.
Ça fait combien d'années qu'elle est à ce niveau-là?
17 victoires, 6 défaites cette saison.
Non, mais c'est énorme. Mais elle sera probablement numéro 1 de toute façon française à la fin de saison.
Et gros coup à jouer quand même en demi contre Vic Mayer. C'est une bonne joueuse, mais qui a quand même connu une saison.
Oui, mais à un moment donné, Vic Mayer, elle va exploser son potentiel. Enfin,
bah
potentiel
là, cette année, écoute, après la finale à Auckland, derrière, plus rien.
Mais à un moment donné, elle est toute jeune, hein, elle a 19-20 ans, ça va finir par sourire. Marion, physiquement, je sais pas comment elle va récupérer son match contre Ivanovic, mais Vic Mayer, à mon avis, ce sera pas si simple que ça.
Ah non, mais il y a un vrai coup à jouer en demi-finale d'un grand tournoi comme ça. Quoi.
On est d'accord.
Parce que Vic Mayer, elle est encore aussi un peu yo-yo. Hein.
Ouais, mais quand elle est en haut de la courbe, ça peut faire mal.
C'est vrai.
Elle est yo-yo, elle a eu des pépins physiques, mais c'est une joueuse qui peut rentrer dans les 10, dans les
top,
5.
Hein.
Oui.
Donc voilà, mais bon, c'est quand même une bonne demi pour Marion.
Et alors,
là où j'étais le plus surprise, c'est que Marion a quand même mis 4-2 à Petkovic en début de tournoi.
Contre qui elle avait perdu cette année, d'ailleurs.
J'adore Petkovic, je trouve qu'elle joue très bien, mais elle n'arrive pas à.
Moi, je crois qu'elle a arrêté un peu de bosser parce qu'elle a beaucoup de sollicitations, la demoiselle. Tout le monde l'adore, elle est géniale, elle fait beaucoup de choses. Et j'ai un peu l'impression qu'il va falloir qu'elle se remette à l'entraînement. Mais elle a le temps, hein.
Oh, t'es dur.
Oh,
c'est pas le temps, mais on sait pas comment elle s'entraîne.
Un petit peu.
Ah, c'est vrai qu'elle a du mal à passer le cap quand même.
À Paris, c'était la star. Hein,
ouais, mais attention, là, ça n'a rien à voir. Vic Mayer a un fort potentiel de top 10. Mmh. Petkovic a rien à voir. Elle a pas un potentiel. Non, elle a pas le même potentiel que Vic
c'est
Mayer.
C'est plus dans le boulot, ouais.
C'est plus dans le travail, il va falloir qu'elle bosse énormément.
Elle est
effectivement,
puissante, mais...
elle peut faire elle peut y accéder pendant un mois ou deux. Enfin, je la vois pas
tenir.
C'est marrant, moi j'aurais dit comme
tenir du tout.
Alors, il y en a une qu'on aimerait vraiment revoir dans le top 10 tous. C'est quand même Maria Sharapova.
Le tennis, on a besoin.
Qu'on a perdu depuis 2 ans et qui là, on dirait qu'il a un petit soubresaut. La voilà aussi en quart de finale à Indian Wells. Elle a battu Safina qui elle avait battu Stosur. Donc tout le monde revient un petit peu.
Stosur, elle
dans
est dans
la
le
danse.
Fond du trou. Elle,
et elle va jouer Peng en quart de finale. Et Sharapova, elle a mis quand même aussi 2 belles raclées là sur les 2 derniers matchs à Rezaï. Bon, Rezaï.
60 fautes le match, catastrophe.
Bah, Rezaï quoi.
Ah non, mais on a pris 2 ans, on est revenu 2 ans en arrière. Fait une catastrophe. Mais une catastrophe.
Ah, il faut que le travail avec Pierre Gauthier commence à.
Pierre Gauthier qui a fait le voyage et qui est reparti. Non, mais où on est, quoi?
Ouais, mais là, c'est plus. Enfin, c'est difficile, Rezaï, parce que ce qui s'est passé en Australie, etc., avec ses problèmes personnels, c'est quand même délicat.
Non, mais...
Effectivement, 60 fautes directes,
c'est
pas.
Non, mais après, sur le jeu de Rezaï, puisque les problèmes personnels, c'est clair, ça a touché.
Mais nous, tout va ensemble, elle.
Je reprends la formule qu'on utilise toujours dans ces cas, ça ne nous regarde pas. Ouais, tout le monde veut absolument dire à Rezaï, toujours, il faut tactiquement apprendre la patience.
Mais ça avait marché l'année dernière, jusqu'à Madrid, ça marche.
Cette nana, elle est pas comme ça. À un moment, ça revient. Alors, est-ce que tant pis, elle fera des coups, et puis quand c'est bien, c'est bien.
Elle
ça fera du Madrid et puis
faut qu'elle en fasse des coups.
Attends, elle a fait un coup pour le moment. Seulement, il va falloir qu'elle change effectivement sa manière de jouer.
Est-ce qu'elle
pouvoir avancer.
Oui,
attends, ça fait des années qu'on lui dit.
Et mais quand tu as réussi une fois, c'est la preuve que tu peux le faire.
Quand
elle fait finale du championnat de France,
c'est difficile de.
Quand elle fait finale du championnat de France, je me rappelle à 17 ans contre Fedosova. Tiens, à l'époque, elle jouait déjà comme ça.
Oui, mais sauf que l'année dernière, à Madrid, elle ne jouait plus comme ça.
Bien loin, t'as une culture tennistique.
Non, parce que ce match m'avait marqué. Je l'avais trouvé 10 fois meilleur que Fedosova. Mais elle avait paumé le match.
10 fois plus de fautes directes.
Voilà,
ça devait être beau comme match Fedosova.
Sauf qu'à Madrid, elle avait réussi ça, à ne plus jouer du ça passe ou ça casse. Donc si tu peux le faire une fois, pourquoi pas deux?
Ouais.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, tu sens qu'elle est mise. Mais
bon, Sharapova en tout cas.
Du
et
mieux.
Pourtant, on parle mental. Pierre Gauthier, en plus d'être entraîneur tennis, il a repris
elle l'a
une
jeté
étude
au bout d'une
et
semaine.
Tout ça, donc il doit quand même lui travailler un peu la tronche.
Elle l'a jeté au bout d'une semaine, qu'est-ce que tu veux?
Quoi,
ah mais c'est déjà fini.
Ah mais oui, il a fait le chemin.
Dis, là,
mais
c'est fini.
Bah, dis-moi pas que c'est pas vrai.
Mais si, il est venu. Mais il est venu à Montreuil. Il est venu à Montreuil et il est reparti. C'est terminé. Ça a duré 3 jours.
Mais t'as lu ça dans quoi?
Ah mais elle l'a dit en conf. C'est dans l'équipe.
Ah bon,
c'est terminé.
Ah,
Pierre Gauthier.
Moi non plus.
On lui a dit mais ton.
Non mais les filles, vous êtes ingérables.
Ça durait quoi, une semaine?
Mais oui, on lui a dit mais qui est avec toi à Indian Wells? Elle a dit bah mon frère. Mais oui, Pierre Gauthier, c'est terminé.
Ah mais elle est repartie avec son frère.
C'est pour ça que c'est compliqué. Quand je vous dis que c'est compliqué,
En tout cas, celle qui rigole de tout ce qui se passe pour tout le monde, c'est quand même Caroline Wozniacki, hein, qui elle va se prendre un petit matelas d'avance au classement.
Alors je bats ma coulpe. Le dernier match qu'elle a joué, j'ai enfin vu la Wozniacki
contre Klaibanova.
Elle avance, elle est enfin agressive, elle arrête de faire que défendre. Je pense qu'elle a entendu les critiques et qu'elle s'est dit que voilà, fallait passer de nouveaux paliers, ne serait-ce que pour tenir physiquement. Et j'ai découvert une Wozniacki qui pouvait faire avancer la balle et être agressive.
Et elle joue en quart de finale contre ma petite Victoria Azarenka, que j'aimerais bien voir.
Azarenka qui fait un match de dingue. Régulière. Qui fait un match de dingue contre Radwanska. 3 heures contre Radwanska.
Non, pas du tout. Moi, j'adore.
Elle a un vrai potentiel, Azarenka.
Elle a joué 3 heures.
Fort que, ouais.
Moi, j'étais déçu quand j'ai joué avec elle il y a quelques temps. J'étais déçu. Autant je me rappelle
après, jeunes, donc
avoir tapé avec des filles et m'être vraiment régalé, là j'étais déçu.
Et là elle a passé 3 heures sur le court contre Radwanska, donc je pense que ça va faire mal contre
Wozniacki. Ça reste
mais bon,
elles sont
super compliqué. Potes, donc des fois ça peut changer un peu les
mon petit prono
temps.
Alors pour la victoire finale, Indian Wells, les filles, les garçons, on commence par vous, Carole Boucher.
Les filles, moi je sens, j'ai envie de dire malheureusement Wozniacki, mais ce serait logique. Et les garçons, allez, Djoko.
Vainqueur carrément.
Ah oui, attends.
Ouais, non, je dirais Wozniacki et peut-être bien. Bon, allez, Del Potro.
Oh,
ah ouais, pas mal. Ouais, ouais, non,
Wozniacki, et puis là, voilà, je manque de. Voilà, je vais dire Rafa.
ça serait pas
c'est
mal,
mon
ça
cœur
aussi.
Qui parle là.
Ça serait pas mal aussi, ça. Rafa de Joko en finale, allez.
Bon. Allez,
Eric, rien. Regarde, qu'est-ce que je peux donner comme nom.
Je disais, je vais pas dire Wozniacki comme tout le monde, tu vois.
Bah oui, mais
moi je dis Bartoli.
Voilà.
Et Djoko. Je prends un risque d'un côté et j'assure un peu plus.
Oh là là là.
Allez,
c'est pour ça que t'as pas aimé jouer au tennis, faut y aller.
Ah ouais, ça doit être ça.
C'est un truc qui va être énormément,
ok, ok, ok.
Ça.
Allez, rendez-vous jeudi prochain pour Carrément Tennis en espérant ayant récupéré toutes les troupes. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous jeudi prochain.
RTL L'équipe, la radio sport et info.